Le message de ce matin s'intitule « Naître à nouveau ». Notre Dieu est un Dieu de vie. Amen. C'est une des facettes de Dieu qui me plaît le plus. Notre Dieu, non seulement est un Dieu de vie, il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité. Ah, oh, il fait peur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est la vie, c'est sa nature même. C'est lui qui l'a inventé. Et nous, on peut faire éventuellement que l'imiter, mais l'imiter, l'apostrophe, imiter, mais Dieu est bien l'auteur de la vie, Jésus est la vie. Et Jésus, à la croix, nous a offert la vie. En échange de la sienne, il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Mais il ne s'est pas contenté de nous dire « ça y est, vous êtes sauvés, bravo, bien joué, merci ». Vous pouvez retourner à vos occupations, c'est bon, vous avez fait le plus dur, voilà le reste, vivez votre vie tranquillou. Il nous offre une toute nouvelle vie. Et c'est de ça dont je voudrais parler avec vous ce matin. Jésus donne une définition de cette toute nouvelle vie, ça s'appelle la nouvelle naissance. Voyons ça ensemble. Nous allons lire, étudier particulièrement un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 1 à 8. Je ne sais pas si c'est possible de l'afficher, Pascal, si tu peux, mais je vais vous le lire. Donc, évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, ce qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Un docteur au sens de la doctrine, au sens de l'enseignement. Tu es un enseignant venu de Dieu. « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alors je ne sais pas vous, mais quand moi je lis ce passage, cette discussion entre Jésus et Nicodème, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se comprendre. Il y a une espèce de malaise, il y a une espèce de décalage, une sorte de dialogue de sourds un peu. Alors on a affaire à deux érudits, deux personnes qui sont des sommités, on pourrait dire, des maîtres respectés. Et pourtant, tout semble les opposer dans la façon dont ils voient la vie avec Dieu. Et bien sûr, c'est Jésus qui a raison. Alors d'abord, on voit que Nicodème vient de nuit, ce qui a beaucoup interrogé ceux qui étudient la parole. Pourquoi Nicodème est-il venu de nuit? Je vous laisse une seconde pour y réfléchir, d'après vous. Il y a plusieurs hypothèses, mais je vais vous en donner une. C'est que sa démarche n'était pas tout à fait entière. Il est venu pas en plein jour. Il est venu un peu clandestinement voir Jésus. On ne sait pas exactement quelles étaient ses motivations, mais on suppose qu'il ne voulait pas trop qu'il soit vu en présence de Jésus, peut-être. En tout cas, pour moi, Nicodème, dans ce passage, représente vraiment ce que j'appelle le chrétien clandestin. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie chrétienne bien établi. Hein, Nicodème, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est un chef des Juifs et un enseignant du peuple. C'est la crème de la crème, si vous voulez. C'est le haut du panier. Il avait sans doute une vie solide. Il connaissait les Écritures, évidemment. Il était renommé. C'est un chef des Juifs, un enseignant de la loi. Il était respecté parmi les siens. Il avait une parfaite connaissance des Écritures. Il priait 3 fois par jour, comme tous les Juifs. Il était sans doute très assidu à toutes les réunions. Mais quand il vient à Jésus, sa démarche n'est pas entière. Et on sent bien qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. Et Jésus va lui parler de certaines choses qui semblent comme inaccessibles à sa façon de penser. Ah. C'est intéressant, hein? C'est bien, j'ai des auditeurs attentifs. Alors, on voit bien que Nicodème, quand il vient à Jésus, il lui dit, vous avez vu, oui, tu ne peux pas faire tout ce que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. En fait, il est en train de caresser Jésus dans le sens du poil, si j'ose dire, et il s'attache aux choses visibles. Il s'attache aux miracles que produit Jésus et il dit, puisqu'il y a des miracles, ça veut dire que. Vous avez remarqué qu'il ne vient pas voir Jésus en lui disant, tu es le prophète, tu es le Messie que les prophètes ont annoncé, tu es le Fils de Dieu. Il ne lui dit pas ces choses-là. Donc il s'est attaché au miracle, il s'est attaché aux choses à l'extérieur de lui-même. Et vous savez que notre nature charnelle s'attache aux choses visibles. Hein, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors Jésus va parler à Nicodème de cette fameuse nouvelle naissance et je voudrais vraiment vous parler de ça ce matin. La perspective que Jésus va donner à ce moment-là est complètement nouvelle. C'est une autre façon de penser, de voir la vie spirituelle. C'est un peu normal que Nicodème ne comprenne pas trop au début en tout cas. Et ce que Jésus lui explique, c'est que la nouvelle naissance, c'est avant tout une sorte de... C'est pas une sorte, c'est un réveil intérieur. C'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ton mode de pensée. C'est ça que lui dit Jésus. Et il parle donc de naître de nouveau. Ah, alors là, Nicodème. Ah bon ? Est-ce qu'on peut retourner dans le ventre de notre mère et naître ? Quand il dit ça, franchement, moi j'ai l'impression qu'il se moque un peu de Jésus, presque. Je me dis, c'est ironique, c'est pas possible, parce que c'est un peu, vous voyez, c'est un peu bébête comme réaction, enfin je sais pas. Alors, naître de nouveau peut être traduit d'une autre manière, ça peut être traduit être né d'en haut. Né du ciel, en fait, né des choses d'en haut, naître aux choses d'en haut. Alors que Nicodème, lui, il reste bien en bas, hein, les choses naturelles, la naissance naturelle. C'est un peu navrant, mais c'est comme ça. Et en fait, on est tous un peu comme ça. Des fois, quand Jésus nous parle de choses spirituelles, de choses célestes, nous, on réagit avec les choses naturelles. Ah bon, mais comment c'est possible? Je ne comprends pas, etc. Donc on a besoin qu'il y ait quelque chose qui change dans nos têtes. Comment Jésus présente cette nouvelle naissance? D'abord, il la présente comme une condition pour voir le royaume de Dieu. Veux-tu voir le royaume de Dieu? Ouais, ouais, je veux voir le royaume de Dieu. Moi, je veux voir le royaume de Dieu, hein. Ah ouais, ouais, carrément, hein. On a pris la pluie de guérison, on a chanté ça ce matin. Faites attention à ce que vous chantez, hein. Vous voulez une pluie de guérison, vous voulez voir le royaume de Dieu en avance, vous voulez voir, peut-être on parle des enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre avec nous dans l'église? Est-ce que vous voulez voir des miracles? Est-ce que vous voulez voir que l'église brille dans le monde? Est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu avancer, des vies transformées, changer, des guérisons de malades? Est-ce que vous voulez voir ça? De malades, oui, de malades, dans les deux sens du terme. Voulez-vous voir le royaume de Dieu? Alors, il nous faut naître à nouveau. C'est ça que dit Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est l'enjeu de ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que sans le renouvellement de notre façon de penser, cette nouvelle naissance que Jésus nous donne, il n'est pas possible ni de comprendre, ni de vivre selon les enseignements qu'il donne. Et il y a une vraie différence entre des chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont chrétiens de nom, qui ont l'étiquette du chrétien, et ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas la même chose. Et j'ose dire, en espérant ne pas trop vous choquer, mais que le vrai chrétien est né de nouveau. Alors Jésus va nous expliquer ce que c'est la nouvelle naissance, parce qu'on a bien envie de savoir maintenant normalement ce que c'est, et il en pose les fondements. D'abord, il parle de naître d'eau et d'esprit, ce qui veut dire que quelque part, l'Esprit Saint va venir opérer un changement. Et c'est lui qui va travailler pour, dans un sorte de processus de transformation, pour nous transformer, pour transformer notre être entier. Et vous rendez bien compte que renaître, ça parle de quelque chose de relativement radical. On n'est pas en train de parler de quelque chose de petit changement, vous voyez ce que je veux dire. Renaître, ça veut dire quelque part mourir et ressusciter. C'est tout changer. C'est abandonner l'ancien pour aller vers le nouveau à l'intérieur de nous, je parle. C'est-à-dire que le vieux Carrel, il n'a plus rien à voir avec le nouveau Carrel. Et je pourrais mettre le prénom de... Vous pouvez mettre votre prénom à la place de ça, si vous voulez. Votre prénom à vous. Renaître, ça parle d'un changement de nature, d'identité. Celui qui naît de nouveau n'est plus la même personne. Il n'est plus fait de la même matière, de la même substance. Il est mort et ressuscité avec Christ. Et c'est le symbole du baptême, où nous sommes ensevelis et ressuscités avec Jésus. Romains 6, 3, 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Veux-tu suivre Jésus ? Veux-tu être disciple de Christ ? Veux-tu être transformé à son image ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut le faire. Dieu veut nous changer. Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie. Et ça, et c'est très concret. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau a changé dans ce qu'il croit, dans ce qu'il vit, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses motivations, dans ses priorités. Sa façon de voir le monde aura changé, aura été impactée par Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. En tout cas, moi, j'essaie de ne pas être naïf. Je pense qu'on peut être encore un peu comme Nicodème. Moi-même, je me sens parfois Nicodème dans certaines de mes réactions. Je me dis que tout n'a pas été touché et transformé par Dieu. On peut avoir tous les signes extérieurs comme Nicodème. Le baptême, la présence à l'église, les relations fraternelles, le service, un ministère. Moi-même, pendant des années, au début de ma conversion, j'étais assez sûr de moi, mais je n'avais pas reçu cette nouvelle vie. Et finalement, j'acceptais Jésus comme on accepte une philosophie dans sa vie, comme on accepte de faire partie d'un club. Et je n'ai pas de problème pour parler de ça, et c'est pour ça que ça me tient à cœur, c'est parce que je l'ai vécu. J'ai été ce chrétien-là qui est tout à fait capable de vivre une vie chrétienne tout à fait propre, honnête aux yeux des autres, mais j'avais encore mon ancienne nature et mon ancienne chair, et même parfois encore aujourd'hui elle a tendance à sortir. Je voudrais pas, mais c'est des fois un peu comme ça, et je voulais finalement faire un compromis avec le vieux moi. Et puis quand même avec Jésus. Puis je dis, ouais, on va mélanger les deux, puis ça va aller. Parce que c'est difficile d'abandonner son ancienne nature en réalité. On s'y accroche, c'est pour ça qu'on n'avance pas. dans la nouveauté de vie que Jésus nous donne. C'est parce que c'est confortable. Jésus te dit aujourd'hui, change de nature. Tu as besoin d'une opération chirurgicale intérieure du Saint-Esprit pour transformer le cœur. Ézéchiel 11, 19, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur, de leur corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien moi, je n'avais pas compris. Donc Jésus parle du vent, il donne cet exemple, hein, le vent, avec sa nature insaisissable, vous savez. Tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas d'où il vient, tu essaies de l'attraper, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre le vent, tu ne peux pas... Tiens, je vais prendre du vent, puis je vais le mettre dans une bouteille, je vais le ramener chez moi. Ça ne marche pas comme ça. L'Esprit Saint, c'est quelque chose qui n'est pas saisissable avec la... avec le raisonnement humain. Il faut changer. Pour comprendre l'esprit, il faut devenir esprit. Sinon, ça ne marche pas. Dieu est tellement patient et pédagogue avec nous, heureusement. Et s'il nous donne cette image du vent, dont on ne comprend pas grand-chose finalement, mais on en ressent les effets, pourtant, on sait que c'est vrai. Alors, Dieu a utilisé avec moi une méthode, il m'a donné une parabole vivante à un moment donné, où, donc c'était il y a 2 ans. J'avais pris 5 jours de retraite tout seul, j'avais que ma Bible, j'ai jeûné, je me suis pris un Airbnb, loin de tout, pas de téléphone, juste ma Bible, le Seigneur et moi, et en avant pour 5 jours. Ma femme avait juste l'adresse de là où j'étais, mais elle ne pouvait pas m'appeler. Donc j'étais vraiment complètement abandonné au Seigneur. Ça s'est passé sur la table d'opération, parce que là, tout de suite, on n'a plus de portable, on n'a plus de... On ne se rend pas compte, hein, de la place que prennent ces choses dans nos vies. Et à un moment donné, alors, il s'est passé tellement de choses pendant cette période, mais je discutais avec le Seigneur, je me promenais, et je dis, Seigneur, si tu veux me montrer quelque chose, montre-moi. Voilà. Puis il ne se passait pas grand-chose, donc bon. Pas grave, on se promène. Et puis d'un seul coup, j'avance, c'était au mois de mai, hein, aussi, et puis je tombe sur une chenille. Vous savez, une chenille suspendue à son fil d'un très grand chêne. Elle était suspendue presque à la branche la plus loin. En fait, on avait l'impression qu'elle était en l'air, en fait. Elle volait, on ne voyait pas le fil, vous voyez ce que je veux dire. Elle était un peu au milieu de l'air, comme ça. Je fais, wow, ok. Alors j'ai senti que le Seigneur voulait que je regarde la chenille, ok. J'ai regardé cette chenille pendant des heures. Et le Seigneur m'a enseigné. Je me suis pris d'affection pour cette chenille. Je pense qu'à la fin de la journée, j'aurais pu lui donner un prénom. Je l'ai vue sur son fil et je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, en fait ? Alors, c'est une sorte de chenille, en fait, où pour tisser leur chrysalide, elles ont un long fil, elles se jettent dans le vide. Et en fait, quand elles sont suspendues au bout du fil, elles commencent à prendre le fil entre leurs pattes. Elles font une petite boule, en fait, de fil. Puis elles montent. Et puis ça va finir par les recouvrir complètement et faire leur chrysalide et puis se transformer en papillon. C'est très étonnant, hein, vraiment. C'est... Ok. Et puis, il s'est passé plein de choses marrantes parce que... À un moment donné, elle a été percutée par un oiseau sous mes yeux. Il y a un oiseau qui est passé, bam, qui l'a tapé dedans, donc elle a dégringolé de son fil. Et j'ai fait, oh mince, elle est morte. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Jusque-là, l'image était un peu bizarre. Et puis elle est repartie, elle a remonté son fil, etc. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, voilà, cette chenille, c'est toi. Tu te débats avec ton fil, mais moi, je vais te faire changer de nature. Ok. Alors j'ai observé les chenilles qui étaient dans l'arbre et j'ai vu que si vous observez bien les chenilles dans un chêne en l'occurrence, elles dévorent tout autour d'elles. Elles mangent en fait les feuilles et puis c'est un peu dégueu en fait, hein, pour être très clair. Les chenilles qui rongent l'arbre dans lequel elles sont. Donc vous savez, elles mangent pour faire du gras en fait, hein, pour la suite. Et puis je voyais évidemment les papillons, c'était la pleine période où les papillons commençaient à voler, et un papillon, ça vole dans les cieux. C'est majestueux, c'est libre. Et j'ai compris à ce moment-là que ce qui est complètement dingue avec la chenille et le papillon, c'est que c'est le même animal qui a deux formes complètement différentes. Vous mettez une chenille et un papillon l'un à côté de l'autre, ça n'a rien à voir. Rien. Il y en a un qui rampe, l'autre qui vole, il y en a un qui mange, l'autre qui... comme ça. Et c'est le même animal, mais transformé. Et puis, peut-être que, je ne sais pas si vous le savez, mais la forme papillon, c'est la seule forme qui produit la vie. C'est la forme de la reproduction. La chenille ne se reproduit pas. C'est le papillon qui se reproduit. C'est incroyable. Donc cet animal, il a deux formes différentes. Il a une forme qui ronge, qui rampe, qui est sur la terre, qui est bien établie, qui consomme ce qui est autour de lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et puis il y a une forme de l'animal qui est libre, qui est dans le ciel, qui voit les choses d'en haut et qui produit la vie. Et là j'ai commencé à comprendre ce que le Seigneur voulait me dire, et j'espère que vous commencez à saisir le rapport avec ce qui précède, mais Dieu désire que nous soyons métamorphosés. Hein, la transformation de la chenille en papillon, ça s'appelle la métamorphose, c'est-à-dire changer de nature. Et Dieu désire que nous changions de nature, que nous passions d'une nature terrestre à une nature céleste. La chenille, elle est rampante et stérile, ne cherchant à dévorer autour d'elle le plus de choses possible, consommer des ressources, consommer du divertissement, si on peut dire. Le papillon est un être qui vole et qui change complètement de perspective. Ça doit être marrant quand même pour une chenille de devenir papillon, voir les choses d'en haut d'un seul coup. Et moi, nous, on est terrestres, hein, on ne vole pas, hein, donc je l'enviais, ce papillon qui était dans le ciel. Je me dis, mince, comment il peut voir les choses ? Et on ne peut pas être les deux à la fois. Et le Seigneur m'a dit que j'avais besoin de chasser la stérilité de ma vie et que ma vie était stérile. Ça fait pas du bien d'entendre ça, c'est clair, c'est pas rigolo. Mais c'est son désir, je l'ai senti, c'était que je porte du fruit, que je devienne une autre forme et que je porte la vie. Pas seulement que je fasse des démarches ou que j'avance, je me dise « Ouais, je suis chrétien, ok, je vis des choses. » Non, je veux que tu portes du fruit, je veux que ta nature soit la mienne. Je veux que ta nature soit la nature de Christ. Je veux que tu revêtes la nouvelle nature. Tu dois changer. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'était un choix. Il m'a dit « Est-ce que tu veux continuer à être un chrétien chenille, à consommer ce qui est autour de toi, à facilement être inquiet d'en manquer, du coup ?» Est-ce que tu es attaché aux choses d'en bas ou est-ce que tu veux être libre ? Est-ce que tu veux avoir mon regard ? Parce que le regard céleste, c'est le regard de Dieu sur la vie. Est-ce que tu veux être capable de porter du fruit ? J'ai dit oui. J'ai dit oui, je veux porter du fruit pour toi, Seigneur. Et j'ai pleuré parce que j'étais une chenille à ce moment-là. Encore, dans beaucoup de domaines de ma vie, j'ai dit oui. Je veux changer de nature, j'en ai besoin. Je me suis trop battu avec ma nature charnelle. Je me suis trop battu avec mes péchés récurrents. Je me suis trop battu avec mes faiblesses, mes inquiétudes. Moi, je veux de cette nouvelle vie que tu me donnes, Jésus. Je veux que tu me changes. Je sais que ce que je dis, ça peut paraître peut-être un peu saugrenu à ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, parmi nous. On se dit, bah attends, c'est bon. Ça s'est fait depuis longtemps. Mais... je ne sais pas si vous avez entendu tous le témoignage de Samuel Peter Schmidt, le pasteur principal de la Porte Ouverte à Mulhouse. Vous savez, cette église qui a été frappée par le Covid durement. Et lui aussi, personnellement, qui a vécu, qui était presque mort hein, de ça, qui est passé tout près de la mort et qui en a réchappé et qui a été vraiment marqué par cette expérience. Une des choses qu'il a dites, Je ne sais pas si vous l'avez entendu, retenu. Il a dit qu'il avait vécu une nouvelle naissance. Est-ce que certains ont entendu ça ? Ouais. Ça m'a marqué parce que j'ai dit quand même, c'est le pasteur principal d'une très grande église. Qu'il dise ça, ça devait être quelque chose. Et oui, il est passé près de la mort, donc il y a quelque chose qui est mort en lui finalement, et qu'il est né de nouveau à quelque chose. Il a parlé notamment de la crainte de Dieu, et qu'il a eu besoin de renaître dans ce domaine-là en particulier. Et Dieu a fait ça dans sa vie. Et je crois qu'il y a des domaines dans notre vie qui ont besoin de ce baptême de feu. Jésus est venu pour nous baptiser d'eau et de feu, d'eau et d'esprit. Et il y a des domaines dans notre vie qui ne sont pas encore sous l'autorité de Christ, qui ne sont pas passés sous sa bannière. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que peut-être c'est difficile de s'en séparer, parce que finalement, c'est plutôt confortable d'essayer d'avoir les deux choses en même temps, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que Jésus donne la vraie vie. Cette vie-là, elle vaut la peine. C'est la vie d'en haut, ce n'est pas une contrefaçon. Alors, quelle est la clé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on ne peut pas changer sans lui. On ne peut pas le faire nous-mêmes. De même que je ne peux pas naître moi-même de ma propre mère. C'est bien ma mère qui me donne naissance. C'est le Saint-Esprit qui te donne naissance à nouveau. Alors, finalement, ça revient à quoi ? Ça revient à le laisser faire. Ça revient à lui accorder le droit de le faire. C'est lâcher prise sur les choses anciennes de nos vies, nos raisonnements anciens auxquels on s'accroche. La Bible appelle ça renoncer à soi-même ou mourir à soi-même. Il faut que tu lui donnes ton accord. C'est aussi simple que ça. Que tu lui fasses confiance. L'image que je pourrais donner, c'est justement celle de la table d'un chirurgien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà subi une anesthésie générale ? Ouais, moi ça m'est arrivé. Alors je me souviens très bien de la sensation que ça fait. En tout cas la première fois, peut-être après on s'habitue, mais au début, on a l'impression qu'on est extrêmement vulnérable. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Je me suis retrouvé, à moitié nu, entouré de gens masqués qui allaient m'ouvrir et j'allais dormir pendant ce temps-là. Je veux dire, on ne peut pas être plus vulnérable et abandonné que ça, finalement. On se dit, on lui fait confiance au chirurgien parce qu'on espère que voilà, ça va bien se passer. Donc ça fait peur, faut pas croire, enfin ça fait peur, c'est difficile de laisser quelqu'un, même si c'est pour notre bien, c'est ouh. Moi j'avais envie de partir en courant, je me dis si je pouvais y échapper à ce moment-là, je pense que je l'aurais fait, mais bon, je savais que c'était nécessaire, alors on y va quoi. Eh ben c'est ça que Dieu veut faire avec nous ce matin. Il veut nous opérer en quelque sorte, changer quelque chose à l'intérieur. Et il veut qu'on lâche l'affaire et qu'on lui dise « Ok, je te fais confiance. Si tu dois enlever des choses, enlève-les. Si tu dois changer des choses, change-les. » Et je suis persuadé que pendant que je parle, l'Esprit Saint vous montre des domaines dans lesquels vous dites « Ça, c'est pas normal dans ma vie. » Alors Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais j'ai tellement besoin de toi pour que tu changes ça et que tu me donnes cette nature. Je veux être d'esprit. Je veux être le vent, je veux être le papillon, je veux voir comme Christ voit, je veux que le royaume de Dieu avance, je veux voir ce royaume. Alors opère-moi, change-moi. Ok, je lâche l'affaire, je te fais confiance. Je ne veux pas vous mentir. Quand on demande à Dieu de faire ça, il le fait. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Ouais, parce que quand Dieu change les choses, il ne les change pas en superficie. Sauf si on ne veut pas qu'il change. Mais en général, il veut venir changer le fondement. Vous savez ? Le truc sur lequel on a construit d'autres choses. Et quand vous changez le fondement, qu'est-ce qui se passe? Blam! Il y a tout un pan qui s'écroule. Oh, la vache! J'aurais bien voulu... Tu ne peux pas changer... Tu sais, il y a une maison, puis la fondation n'est pas terrible. Tu vas dire, tu ne peux pas changer, juste enlever la fondation, en remettre une autre dessous, puis tu ne touches pas au reste. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça va s'écrouler peut-être à certains endroits. Il y a tout un pan qui peut tirer derrière. Mais c'est pour le bien. C'est pour être reconstruit sur la nature de Christ. Et la nature de Christ, c'est éternel. Ça dure dans nos vies, mais ça produit du fruit dans les autres. Ça produit du fruit dans nos enfants. Ça produit du fruit dans leurs enfants après nous. Ça produit du fruit dans l'éternité. Et moi, c'est ça que je veux. Alors j'ai dit oui, et il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées dans ma vie. Des mauvaises choses, des bonnes choses construites sur des mauvaises choses, mais ça valait la peine. Il y en a encore, bien sûr. Hein. Il y en a encore. J'ai eu besoin de guérir d'un péché récurrent qui était là depuis mon enfance dans ma vie, qui était accroché à moi. Et Dieu l'a fait, parce qu'il est bon. Parce que quand on lui fait confiance, il fait pour le mieux. Il fait pour nous et il fait pour sa gloire. Ce n'est plus ma chair qui est le fondement, c'est Christ. Voilà le changement qu'opère le Saint-Esprit en nous. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de lui abandonner ces choses. Peut-être que tu perdras certaines choses. Encore une fois, moi je suis honnête, hein, je ne suis pas en train de vous vendre un conte de fées. Peut-être que vous allez perdre certaines choses, mais vous savez ce que disait Paul. Renoncer à certaines choses pour le Christ, ça vaut la peine. Il l'a formulé bien sûr mieux que ça. Il a dit, mais ces choses, donc les choses anciennes, les choses du passé, les choses de la chair, ma réputation, ce que j'ai matériellement, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ce qui fait ma joie, ce ne sont plus mes activités, ma renommée, ce qu'on pense de moi. Ce qui fait ma joie, c'est le Christ. Et je veux naître à nouveau, ne plus considérer ma vie terrestre comme ce qui est le plus précieux, mais chérir le Christ. Prions. Seigneur, tu es mort sur la croix, merci pour cette nouvelle vie qui commence à cette croix, elle commence là, cette vie d'abondance, cette vie céleste, cette vie libre, libre du péché. Libre de la mort, libre de la crainte. Merci de nous l'offrir. Tu nous tends à nouveau cette vie nouvelle ce matin. Tu l'attends à chacun de nous. Et tu nous dis, je veux te transformer. Je veux que tu changes de nature. Je veux te donner ma nature. Je t'offre une nouvelle perspective. Je t'offre un nouveau départ ce matin. Alors Seigneur, je veux prier avec chacun de mes frères et de mes sœurs ici qui sent qu'il a besoin d'une nouvelle naissance dans un domaine de sa vie, qui en a marre, qui a lutté, qui s'accroche peut-être, qui ne sait pas comment faire. Viens Saint-Esprit, nous t'avons appelé tout à l'heure dans notre louange, viens à l'intérieur faire naître de nouveau mes frères et sœurs. Partout ils en ont besoin. Nous appelons la nouvelle naissance au milieu de cette communauté. Nous appelons un renouveau. Nous appelons une marche en nouveauté de vie. Nous appelons ce qui doit changer à être changé. Nous te faisons confiance. Nous nous rendons vulnérables. J'appelle des lâcher-prises, Seigneur, dans les cœurs. Même si c'est un petit peu difficile, aide-nous. Viens à notre secours, aide-nous, Aide-nous, voilà la prière la plus prononcée de la Bible. Aide-nous, viens à notre secours. On ne peut pas se changer tout seul, on a besoin de toi. C'est toi qui fais, c'est toi qui sais. Tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, je ne veux plus être un chrétien de nom. Je veux être un vrai chrétien. Quelqu'un qui a rencontré le Christ et qui en a été impacté. Je ne veux plus être prisonnier de mes péchés, de mes fautes, de mes mauvais raisonnements, de ma chair. Je veux être captif de Christ. Je veux être un disciple. Je veux être qui tu veux que je sois. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je le proclame au nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi dira qui va dans l'autre sens en disant « Mais non, t'es déjà très bien comme ça. Oh là là, surtout, change pas. Ça va te causer des ennuis. Seigneur, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes profondément. Tu n'es pas un chirurgien humain pour faire une erreur médicale. Tu es le merveilleux chirurgien de nos âmes et de nos esprits. Tu es si bon et si tendre. Ce que tu nous offres vaut la peine. Seigneur, je te prie vraiment pour tous ceux pour qui c'est difficile. Peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont pas vécu de nouvelle naissance, qui en fait ont fait des démarches, peut-être même jusqu'au baptême, mais qui n'ont pas senti la transformation, qui n'ont pas vécu la transformation de ton Esprit Saint. Je te demande de faire souffler dès maintenant et pour les jours à venir un renouveau, un souffle bon et agréable qui dit « Voilà, je vais le faire avec toi. Je vais te transformer, je vais te toucher. » Donne-moi ces choses. Dépose-les au pied de la croix et reçois la vie de Christ. Et s'il le faut, meurs à ces choses et renais avec le Christ. Renais avec le Christ ce matin. Vis la vie qu'il t'offre, qu'il te donne. Vis-la jusqu'au bout, car c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Voilà ce qui t'est accessible. Si tu veux bien le laisser faire, nous te laissons faire, Seigneur. En tant qu'individu et en tant que communauté, on a besoin de toi. Amen.